Bonjour, chers frères et sœurs. Ce vendredi soir, je voudrais vous apporter quelques pensées qui, je l'espère, vous feront du bien et vous béniront. On va lire dans Matthieu, chapitre 22 et verset 29. Matthieu 22 et verset 29. C'est Jésus qui est en conversation avec des religieux qui comprennent rien à rien. Il leur dit, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse tout cela et nous aide à comprendre des choses importantes afin qu'on vive mieux dans ces temps difficiles. Vous savez, j'ai tout à fait conscience que l'usage que vous faites de mes prédications et la valeur que vous leur donnez dépend de ce que vous voulez en faire. Je ne me fais aucune illusion. Je vous parle simplement en vous disant ce que le Seigneur m'a donné. Tout ce que je vous enseigne fait partie de mon âme, de mon être. Ce ne sont pas des choses qui sont au-delà de ma connaissance de Dieu et de sa puissance. Je connais notre Seigneur et je connais sa puissance. Je pense que vous avez vu le témoignage encore de cette résurrection. Des gens me disent « Oui, mais c'est toujours en Afrique. » Là, c'est en France, c'est à Paris. C'est une résurrection, gloire à Dieu. Quelqu'un m'a traité d'hérétique il n'y a pas tellement longtemps, disant « Voilà, tu fais des baptêmes pour les morts, c'est une hérésie, c'est diabolique et tout. » Ben voilà, ben, s'il y a des hérétiques qui arrivent à ressusciter des morts au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père Céleste, eh ben mes enfants, je ne comprends plus rien, et je ne comprends plus Osborne, et je ne comprends plus Raphaël, et je ne comprends plus la Bible. Par contre, cette personne-là, elle suit Claude Inierski, qui s'est déjà trompé cette fois en donnant des dates au sujet du retour de Jésus, vous voyez. Bon, donc voilà, moi je reste tranquille avec ce que j'ai reçu du Seigneur et je vous le donne de tout mon cœur et vous en faites ce que vous voulez. Je ne rends pas témoignage de moi-même, simplement je dis que quand Jésus dit « vous êtes dans l'erreur », faut savoir que le texte grec utilise le verbe « planao » qui implique l'idée d'abus et de tromperie. Alors ces religieux auxquels Jésus s'adressait, il leur parle de, en fait, leurs trois défauts fondamentaux. Vous savez, les religieux n'ont pas changé, c'est toujours pareil. Alors, le premier défaut, c'est qu'ils se trompaient eux-mêmes. On trouve ça dans Romains, chapitre 1, verset 21-22. Car ayant connu Dieu, vous voyez, c'est ça le truc, ils sont inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Voilà. C'est bien dommage pour eux, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand quelqu'un est fou, ben, il ne se rend même plus compte. Qu'il est fou. Vous allez dans une maison, dans un asile, ils vous disent tous qu'ils ne sont pas fous. Hein. C'est comme ça. Ce qu'il faut, c'est connaître Dieu et la puissance de Dieu. Et quand on connaît Dieu et qu'on connaît la puissance de Dieu, on manifeste la puissance de Dieu qui nous permet d'être crédibles au sujet de ce qu'on dit de la personne de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Le deuxième défaut de ces religieux à qui Jésus s'adressait, c'est qu'ils ignoraient le message spirituel de la Bible. On trouve ça dans Actes, enfin je veux dire des écritures qu'ils avaient à l'époque. On trouve ça dans Actes 13, verset 27. Actes 13, verset 27, où il est dit est-ce que c'est bien ça? Je doute que ce soit ça. Non, c'est pas ça, je me suis trompé, excusez-moi. C'est un passage qui dit ils veulent ignorer, c'est ça le problème. Ils veulent ignorer, ils ont un intérêt, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 13-27 alors que ce n'est pas 13-27. Excusez-moi, je me suis trompé en faisant mes notes, j'étais un petit peu trop vite. Mais voilà, il y a un texte qui dit « ils veulent ignorer », je pense que vous connaissez ce texte. Le troisième texte, la troisième raison, la troisième Le troisième défaut fondamental de ces religieux d'autrefois et d'aujourd'hui, c'est qu'ils croient, pardon, ils ne croient pas à l'intervention de la puissance de Dieu. On trouve ça dans 2 Pierre 3, j'espère que là la référence est bonne. 2 Pierre 3, 4, 9. 2 Pierre 3, 4, 9. 2 Pierre 3, 4, 9. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Encore une fois, ils veulent ignorer, en effet, que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde entier périt, submergé par l'eau. Mais, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors voilà, les défauts de ces religieux. Ils ne croient pas dans la puissance de Dieu, ils ne croient pas que Dieu intervient, n'est-ce pas? L'Écriture, plus la puissance de Dieu, révèle ce qui est caché, mais l'homme animal ne peut pas voir ça. Le mot révéler, ça signifie plus que simplement dévoiler, ça signifie retirer et remettre sous le voile. C'est pas dévoiler une fois pour toutes. C'est tenu quand même caché pour ceux qui ne doivent pas voir. Vous vous rappelez la dernière fois, je vous ai enseigné ça, que Jésus disait souvent les choses, mais les yeux, les oreilles des disciples étaient bouchées afin qu'ils ne comprennent pas ce qui était dit. Vous pourriez dire, c'est étrange, pourquoi il le dit alors? C'est afin qu'après, une fois que c'est fait, eh bien, ceux qui ont quand même fait confiance sans vraiment bien comprendre, eh bien, ceux-là soient récompensés. Révéler, c'est pas tenter d'enseigner les secrets d'une vie meilleure façon New Age. C'est pas ce que j'essaye de faire. Jésus dit que ses brebis reconnaissent sa voix. Et je vous dis, de la part du Seigneur, que les brebis du Seigneur savent reconnaître sa voix et donc agir selon cette voix et en son nom. Parce qu'elles l'ont déjà fait avant. Dans le passé éternel. Dans le passé éternel, il n'y a ni début ni fin. Et toutes ces choses qu'on est en train de vivre aujourd'hui, nous les avons déjà vécues, en esprit. Vous ne voulez pas me croire? Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Simplement, ce qui se passe, c'est que les brebis du Seigneur ont oublié qu'elles savaient faire les choses. Elles sont obligées de les apprendre. Alors elles rencontrent Jésus, elles reconnaissent sa voix. On ne peut pas reconnaître une voix qu'on n'a jamais connue. Et puis ensuite, elles écoutent Jésus pour se souvenir, n'est-ce pas, de ce que Jésus veut et du pourquoi elles sont venues sur la terre. Et pour ça, ben, il faut la révélation, c'est-à-dire le voile se lève, et puis après, une fois que la personne a vu, ça se repose, afin que ce voile-là cache toujours les choses pour que les autres ne les voient pas. Vous avez des quantités de gens qui lisent les Écritures et qui n'y voyaient rien, pourtant c'est les mêmes mots que tous les autres, tout le monde lit les mêmes mots, mais il y en a qui voient et d'autres qui ne voient pas. Une brebis du Seigneur se trouve devant de grandes exigences de la part du bon berger. Mais c'est toujours au moment d'affronter le problème, au dernier moment, qu'elles se rendent compte qu'elles sont bien plus capables qu'elles ne le pensaient. C'est pourquoi Jésus dit « ne vous inquiétez de rien ». Si Jésus vous demande de faire une chose, il vous rendra capable de la faire, mais ça sera toujours au dernier moment. Dieu est le Dieu du dernier moment. On a vu combien de fois. Quant à la puissance, qu'elle soit naturelle ou surnaturelle, que Dieu attend des siens, elle vient d'une source méconnue des humains, mais révélée au dernier moment par la source elle-même, c'est-à-dire par Dieu. Elle est révélée à ses enfants obéissants. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. quand on a reçu le Saint-Esprit de promesse, le Saint-Esprit de révélation, alors et si on continue à marcher, après avoir passé la porte, si on continue à marcher sur le chemin avec fidélité, eh bien cette source, n'est-ce pas, est pour nous quelque chose de très enrichissant. Vous savez, depuis le 1er juin 68, depuis que j'ai commencé à suivre ce que je considère comme mon chemin, je tente d'honorer cette puissance, le Saint-Esprit. Je tente de me connecter à la puissance du Saint-Esprit tous les jours. Je tente de me laisser guider par les chuchotements du Saint-Esprit. Bref, je tente d'apprendre en faisant quelque chose, pas simplement en pensant le faire une fois, ou en bouquinant des livres qui donnent des recettes spirituelles. Bien sûr, les livres écrits par les anciens, dignes, qui ont fait leurs preuves, sont des trésors inestimables, c'est vrai. Mais si on n'en fait rien, eh ben ces livres-là ne servent à rien. Ils n'ont que la valeur que vous leur donnez. Et tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. Si c'est simplement pour se réjouir un petit moment, en lisant quelque chose, en écoutant quelque chose, et puis après, on reprend notre vie, on met trop au boulot, dodo, sans rien, sans miracle, sans surnaturel, sans sanctification, sans rien. Mais c'est, excusez-moi, mais j'ai mon ami Nicolas Savadogo, vous savez ce qu'il dit? Il dit c'est de la masturbation spirituelle, c'est-à-dire c'est un plaisir solitaire. Ça sert à rien, ni à Dieu, ni aux gens. Il faut faire usage. Il faut en faire usage de cette connaissance qui est donnée. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à personne et ça glorifie pas Dieu. Je vais vous lire une belle histoire que j'ai lue et qui illustre cela, mais vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite, mais je vais vous expliquer. Écoutez, cette histoire, elle est très belle. Ce matin, un paysan frappe un grand coup à la porte d'un couvent. Et quand le frère portier vient ouvrir, le paysan lui tend une magnifique grappe de raisin. « Cher frère portier, voici le plus beau raisin que produit ma vigne, je viens ici te l'offrir. »« Merci, dit le frère portier, mais je vais le porter immédiatement à l'abbé qui se réjouira de ce présent. »« Non, je l'ai apporté pour toi, pour moi, mais je ne mérite pas un si beau cadeau de la nature. » Et le paysan dit, « Mais chaque fois que j'ai frappé à la porte, tu as ouvert. Quand j'ai eu besoin d'aide parce que la sécheresse avait détruit la récolte, tu m'as donné tous les jours un morceau de pain et un verre de vin. Je veux que cette grappe de raisin t'apporte un peu de l'amour, du soleil, de la beauté, de la pluie et du miracle de Dieu. » Le frère portier posa la grappe de raisin devant lui et passa toute la matinée à l'admirer. Elle était vraiment superbe. Pour cette raison, il décida de remettre le présent à l'abbé, qui avait toujours encouragé par ses paroles de sagesse. L'abbé fut très content de recevoir le raisin, mais il se rappela qu'il y avait dans le couvent un frère qui était malade, et il pensa, je vais lui donner cette grappe, cela mettra peut-être un peu de joie dans sa vie. Mais le raisin ne demeura pas très longtemps dans la chambre du frère malade. Celui-ci réfléchit et se dit, le frère cuisinier prend soin de moi, il prépare pour moi la meilleure nourriture, je suis certain que cela lui apportera beaucoup de bonheur. Quand le frère cuisinier se présenta à l'heure du déjeuner, apportant son repas au malade, le malade lui offrit donc la grappe de raisin. « Tiens, c'est pour toi. Comme tu es toujours en contact avec les produits de la nature que la nature nous offre, tu sauras quoi faire avec cette œuvre de Dieu. » Le frère cuisinier fut ébloui par la beauté de la grappe et il fit observer à son adjoint la perfection du raisin, si parfait que personne ne l'apprécierait mieux que le frère sacristain, responsable de la garde du Saint-Sacrement, en qui beaucoup de monastères voyaient un saint homme. Alors le frère sacristain, à son tour, fit cadeau du raisin au plus jeune novice afin qu'il comprît que l'œuvre de Dieu se trouve dans les plus petits détails de la création. Quand le novice le reçut, son cœur se remplit de la gloire du Seigneur car il n'avait jamais vu une grappe aussi belle. Il se rappela immédiatement le jour de son arrivée au monastère et la personne qui lui avait ouvert la porte. C'était grâce à ce geste qu'il se trouvait aujourd'hui dans cette communauté de personnes sachant valoriser les miracles. Ainsi, peu avant la tombée de la nuit, il porta la grappe de raisin au frère portier. Mange et profites-en, tu passes la plus grande partie du temps seul ici, ce raisin te fera beaucoup de bien. » Alors le frère portier comprit que ce présent lui était vraiment destiné. Il savoura chaque grain de cette grappe et s'endormit heureux. Ainsi le cercle fut fermé, un cercle de bonheur et de joie qui s'étend toujours autour de celui qui est en contact avec l'énergie de l'amour. C'est pas une belle histoire? J'ai trouvé ça très beau. Tu vois, Dieu te fait un cadeau. Tous les enfants de Dieu ont un cadeau, un don. Mais ce cadeau, ce sont les règles de vie du royaume de Dieu. Et souvent, pas seulement par négligence, mais des fois par amour ou par humilité, comme là dans cette histoire, on ne profite pas de ce cadeau, de ce don que Dieu nous donne d'une façon tout à fait personnelle. Puis le temps passe et finalement le don, le cadeau de Dieu nous revient un jour ou l'autre après que le temps est passé, après que nous ayons vécu les choses, n'est-ce pas ? Le cadeau nous revient. Ce soir, ce que Dieu t'a donné au départ, quand tu es venu vers lui, ben, il te le redonne. Prends soin de ce qu'il t'a donné, prends soin des règles de la vie chrétienne. Profites-en, et si tu le fais bien, d'autres en profiteront. Regarde Jean sur l'île de Patmos. Dieu lui donne un livre et lui dit « mange-le ». Jean n'a pas hésité, il n'a pas dit « mais comment, mais c'est pas bon, comment il faut faire, il n'y a pas de sel, j'aimerais bien un peu de poivre ». Non, Jean n'a pas hésité, il a pris le cadeau de Dieu et il l'a intégré à sa vie, il l'a mangé. Ça veut dire qu'il l'a intégré à sa vie. Et de cela est ressorti, enfin, c'est ressorti sous forme de prophétie, mes frères et sœurs. Regardez Apocalypse 10, 9, 11. Et ça a fait du bien à combien de milliers de personnes, ces prophéties que Jean a portées. Alors c'est vrai que ce livre avait deux goûts. Le goût de la douceur du miel et puis un autre goût, un goût amer. Et c'est toujours comme ça avec Dieu. Et en fait, c'est comme ça toujours. Il n'y a pas que le doux et l'agréable, il y a aussi l'amer, le pénible. Prenez par exemple la vie communautaire. Depuis 1977, mon épouse et moi, nous vivons en communauté avec des gens. Et je peux vous dire, le psaume 133 dit vrai quand il dit qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Oui, amen, amen, c'est vrai, oui, c'est vrai. Mais il y a aussi des fois de l'amer. Je connais ça, j'ai vécu ça, de la mer, des moments d'incompréhension, des moments de trahison, des moments... Bref, je vous dis cela afin que vous preniez au sérieux ce que Dieu vous a donné. Nous sommes les enfants de Dieu du 21e siècle, mais nous ne pouvons pas, ni n'avons le droit, de négliger ce que Dieu a fait avec nos ancêtres. Nous devons nous rapprocher d'eux avec respect, selon la prophétie qui est donnée. Il rapprochera le père, les pères, les enfants, etc. Ça veut dire Malachie. En fait, dans un vocabulaire moderne, on dirait que quand on s'est converti, on a pris un train en marche qui va dans une direction, direction paradis. Et ce train, ben, il roule sur des rails. Il y a toujours deux rails. Vous avez remarqué ? C'est vrai que maintenant, ils font des monorails, mais c'est quand même pas très courant. Eh bien, l'autre jour, j'étais à la gare, et puis on attendait un train qui avait un peu de retard, et puis il y avait le chef de gare qui était là, qui s'impatientait un petit peu. Et puis je regardais les rails, et puis tout d'un coup, j'ai posé la question au chef de gare qui était là, puis j'ai dit... Quelle est la distance qui sépare les rails ? Et il me dit 143,5 cm. Alors j'ai demandé, mais Pourquoi ce chiffre-là, c'est un chiffre bizarre, 143,5 cm. Alors il me dit, c'est un érudit en quelque sorte, il me dit, quand on a construit le premier wagon de chemin de fer, on a utilisé les mêmes outils que ceux dont on se servait pour les voitures. Alors je dis, mais d'accord, ok, d'accord, mais pourquoi cette distance entre les roues des voitures? Ben, je voulais pousser le bouchon un peu loin, de toute façon on avait le temps, le train avait du retard. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est parce que les anciennes routes avaient été faites pour cette dimension-là, 143,5 cm. Et que les voitures n'auraient pas pu circuler autrement sur des anciennes routes qui étaient déjà existantes. Donc, quand ils ont commencé à faire les voitures, eh bien, ils ont donné cette distance entre les deux roues pour qu'elles puissent rouler sur les routes qui existaient déjà. Alors, comme je suis un curieux, pas possible, j'ai continué, j'ai demandé, mais qui a décidé que les routes devaient être faites à cette dimension? Alors là, je suis resté vraiment bouche bée. Il me dit, ben, c'est les Romains. Les Romains. C'était eux les premiers grands constructeurs de routes. Et ils ont décidé cela. Je dis, ah oui, vous avez l'air d'en connaître un bout. Pour quelle raison ils ont décidé? Il me dit, ben c'est simple. Les chars de guerre, à l'époque, étaient conduits par deux chevaux. Et quand on mettait côte à côte les animaux de cette race, dont ils se servaient à l'époque pour la guerre, ben ils ont vu qu'ils occupaient 143,5 cm. Ainsi, mes frères et sœurs, la distance entre les rails de nos trains modernes à grande vitesse a été déterminée par les Romains. C'est formidable, non? Mais à quoi ça sert que je prêche là-dessus? Ah, Michel, c'est pas une prédication. Si, c'est une prédication, parce que c'est un enseignement qui va vous aider. Écoutez bien. Quand vous vous êtes unis avec Jésus, votre divin époux, vous êtes monté dans le train et vous êtes en partance pour le paradis, vous marchez côte à côte avec lui. Si vous allez un petit peu trop à droite, ou si vous allez un petit peu trop à gauche, vous allez à l'encontre des règles. Vous devez tenir votre place, absolument. Même si l'amour vous dit que vous pouvez enfreindre la règle. Parce que même si l'amour, combien de gens font des choses en pensant que c'est par amour, mais finalement ça rend un mauvais service aux autres. Ben, si vous faites des choses par amour et qui vous mènent un petit peu trop à droite ou un petit peu trop à gauche, votre train va dérailler. L'écartement entre les rails, il doit être, à la fin de votre vie, le même qu'au départ, qu'au commencement de votre vie chrétienne. Votre amour du début doit rester le même jusqu'à la destination finale, c'est-à-dire le paradis. Le train de votre existence passe et se dirige vers le futur. Vos enfants sont dedans. Votre famille est dedans. Et ils ne seront heureux que si vous restez équilibré à 143,5. C'est une image, j'espère que vous saisissez. Certains s'étonnent que leurs enfants ne marchent pas avec Dieu. Le plus simple, quand c'est comme ça, on met la faute sur quelqu'un. Mes frères et sœurs, vos enfants... vous êtes les idoles de vos enfants. C'est vous qu'ils regardent. C'est vous qui. C'est personne d'autre que vous. Eh bien, ils ont sans doute subi dans leur vie tous les écarts que vous vous êtes permis. Ils n'ont pas profité du cadeau de Dieu que vous avez reçu, les 143,5 cm. C'est-à-dire les règles de l'équilibre. C'est-à-dire vous avez été trop permissif ou vous avez été trop dur, trop légaliste. Et cela souvent par amour pour eux. Eh oui, ce petit proverbe qui dit que l'amour rend aveugle, eh oui. Toutes les règles que Dieu a établies et qu'on trouve dans la Bible, vous devez, nous devons les respecter. C'est cela la grappe de raisin que Dieu vous a offert. Ce cadeau. Ce cadeau sont les règles de la vie chrétienne. En vue de l'équilibre. Pour votre propre vie, mais pour celle de vos enfants, pour celle de votre famille entière. Vous voyez? Qui a établi ces règles? Dieu. Et ces règles, elles resteront valables à tout jamais. Même si vous n'êtes pas d'accord. Alors aujourd'hui, Dieu veut vous remettre votre cadeau du début. Les règles de la vie chrétienne. Vous l'avez reçu, et par amour, ou par je ne sais quoi, par humilité, vous l'avez remis à un, qui l'a remis à l'autre, etc., etc. Mais finalement, voilà, maintenant, aujourd'hui, ça vous revient. Ça vous revient. Dieu vous le rend. Dieu vous redonne ses règles, et il a foi que cette fois, vous allez marcher comme il faut. Il veut vous remettre sur les rails. Vous et toute votre famille en bénéficiera. La condition, c'est que vous vous repentiez de vos erreurs passées. Je ne vous juge pas, mais je suis sûr que vous avez des erreurs passées. Il vous faut les confesser. Je vous apporte une bonne nouvelle. Ce cadeau, Dieu veut vous le redonner. Il veut vous remettre sur les rails, sur la bonne voie. Allez-vous l'accepter humblement? Et la manger, cette grappe de raisin, et le manger, ce livre, et rouler correctement sur les rails, dans la bonne direction, sans dérailler. Cela vous fera du bien, et cela fera du bien à toute votre famille. Voilà pourquoi la Bible nous dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Jésus, je te remercie pour ce message que tu m'as inspiré au travers des rencontres que je fais, des lectures que je fais. Merci Jésus pour ton Saint-Esprit qui m'inspire toujours. Et je te demande, mon Dieu, d'inspirer ceux qui ont écouté ce message à ne pas discutailler, mais à aller sur leurs genoux et se mettre véritablement en ordre et te laisser les remettre sur les bonnes voies. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Au revoir.